Bienvenue sur Schumann Radio. Au programme de notre toute première émission, nous allons parler de la Saint-Valentin. Cet enregistrement contiendra
une présentation de l'origine de la Saint-Valentin par Cyriane et Zoé, une interview de l'infirmière scolaire par Louis et Tom,
une présentation de l'amour d'un point de vue mythologique par Monsieur Orny, la présentation d'un manga en rapport avec l'amour par Louis et Tom, et enfin la présentation du roman de Monsieur Chardin par Héloïse, Louis et Tom. Nous vous souhaitons une agréable écoute.
Nous allons commencer par la présentation de l'origine de la Saint-Valentin par Cyriane et Zoé.
La fête de la Saint-Valentin est la fête des amoureux. La Saint-Valentin est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, mais elle ne connaît un réel développement en France que depuis les années 80. Comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines, mais la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Pour le reste, les avis divergent beaucoup sur l'origine de la Saint-Valentin.
Qui est Valentin de Terni ou le Saint-Valentin ?
Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint-Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II le Gothique. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leur fiancée plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terni continua de marier les couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. À force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relayé partout, si bien que Claude II le Gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint-Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de mettre à l'honneur chaque 14 février en 494.
Qu'est-ce que le valentinage ?
C'est au XIVe siècle que l'on prit l'habitude de former un couple au hasard en Angleterre. La coutume du valentinage est née dans l'aristocratie anglaise à la fin du Moyen-Âge. Une jeune fille était associée à un jeune homme et durant la journée, ils avaient des obligations l'un envers l'autre. Le Valentin et sa Valentine devaient s'offrir en secret des petits cadeaux et se faire des galanteries. Cette coutume est arrivée à la cour de Savoie, puis s'est répandue dans les régions voisines. Le valentinage s'est enrichi de l'envoi du poème de Saint-Valentin.
Quand la Saint-Valentin est-elle arrivée en France ?
Depuis l'apparition du valentinage à la cour d'Angleterre au XIVe siècle, les Valentins et les Valentines anglo-saxons s'envoient des Valentines. Cette coutume d'échange d'amitié se transforma peu à peu en fête des amoureux. Dans les pays anglo-saxons, les amis échangent aussi des mots d'amitié par intermédiaire de la carte de Saint-Valentin. Depuis le XVIIIe siècle, la coutume de l'envoi des Valentines s'est généralisée en Grande-Bretagne, puis en Amérique du Nord, où elle prend le nom de Valentine Day. La coutume s'est répandue en Europe avec l'arrivée de G.I. à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Nous allons à présent poursuivre par l'interview de l'infirmière scolaire par Louis et Tom.
Bonjour, merci beaucoup de répondre à nos questions. C'est sur la Saint-Valentin. Qu'est-ce que cela veut dire être amoureux ?
Alors bonjour, merci d'avoir pensé à moi pour poser ces questions. C'est un honneur. Alors, être amoureux pour moi, c'est avoir des sentiments pour quelqu'un, avoir envie de partager des choses avec cette personne. On la trouve jolie, on aime les choses, on aime bien partager des beaux moments avec cette personne. Voilà.
Comment sait-on qu'on est amoureux ?
Alors, c'est difficile à dire, mais c'est quelque chose en fait qu'on ressent. En fait, on ne choisit pas d'être amoureux. C'est ça que je voulais dire la dernière fois. En fait, on ne choisit pas d'être amoureux. C'est des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, c'est difficile à dire. Pour moi, on sait qu'on est amoureux quand on ressent des émotions à l'intérieur de nous. On est gêné quand on voit la personne. Cela provoque un peu des vibrations dans le corps.
Justement, parlant de cela, qu'est-ce que ça provoque dans notre corps, à part des vibrations
Voilà, des vibrations, des papillons dans le ventre et dans le cœur. En fait, on ressent des émotions qu'on a du mal un peu à expliquer. Mais quand on voit cette personne, on a envie de la voir tous les jours. On a envie et c'est notre corps, en fait, qui parle.
Qu'est-ce que cela provoque dans notre cœur ou nos pensées ?
Alors, on se sent bien, notre cœur palpite, je pense, un peu plus que d'habitude. Parfois, on peut m'être gêné de ne plus savoir qu'à dire, quoi faire, être maladroit avec cette personne, ou au contraire, avoir des ailes, se sentir de l'énergie, être positif. Bref, quand on est amoureux, c'est le bonheur.
D'accord. Faut-il en parler? Et si oui, à qui?
Alors moi, je pense que c'est personnel, c'est pas une obligation d'en parler, c'est comme on le veut, comme on le sent. Cela fait partie de notre jardin secret. On peut se confier si on en a envie, tout en étant prudent, hein, à ne pas trop révéler des choses, car cela peut se retourner contre nous. Et puis à qui? Ben, peut-être à la personne de son choix, une personne avec qui on est en confiance, avec qui on se sent bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation, c'est chacun qui ressent le besoin de se confier ou pas.
Et enfin, la dernière, à quel âge avez-vous eu votre premier amour? Avez-vous eu, pardon?
Alors, les premiers amours, c'est vrai que c'était un petit peu au collège. Hein. Voilà, entre guillemets, les amourettes de collège. Le premier vrai grand amour, c'était plus tard. Mais au collège, effectivement, il y a eu les premières émotions, les premiers émois. Et on se pose beaucoup de questions. On est forcément amoureux. On a l'impression que c'est pour la vie. Voilà.
Voilà, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir.
De rien. Merci à vous.
Entre-temps, nous avons eu l'opportunité d'ajouter un nouvel enregistrement qui concernera les effets de l'amour sur notre corps. Cet enregistrement nous sera également présenté par Cyriane et Zoé.
Quand l'amour bouscule le corps et le cœur, c'est le coup de foudre. Le système nerveux autonome, et plus particulièrement une de ses composantes, le système sympathique, s'active. L'adrénaline et la noradrénaline, ainsi qu'un cocktail de toutes les autres molécules, rentrent en jeu. Le corps se met alors à se manifester sans qu'on puisse en garder le contrôle.
Cœur palpitant. Sous l'effet d'un sentiment amoureux intense, notre cœur subit le même type d'effet qu'un stress ou une émotion forte. Une montée d'adrénaline et de noradrénaline. L'impact immédiat est une accélération du rythme cardiaque.
Papillon dans le ventre, c'est encore un effet dû à la libération d'adrénaline qui provoque une accélération du rythme cardiaque et du flux sanguin. Des contractions se déclenchent au niveau des muscles du ventre.
Pupilles dilatées, amoureux en vue, les yeux ne font pas que s'écarquiller, nos pupilles vont même se dilater. Cet effet est dû à la production d'oxytocine.
Jour rose. Les hormones responsables de l'accélération cardiaque vont jouer sur le flux sanguin, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux du visage. Parfois, il y a même une marbrure au niveau du cou.
Main moite. Comme pendant une phase de stress, l'arrivée des hormones dans le sang surexcite les glands sudoriparés responsables de la respiration. On sue alors beaucoup, mais c'est sur les mains que cela devient le plus perceptible. Style.
Dans un instant, nous allons écouter la présentation de l'amour d'un point de vue mythologique par Monsieur Orny.
Cupidon chez les Romains, Eros chez les Grecs, le dieu de l'amour, est représenté sous la forme d'un adolescent très beau ou d'un enfant, ou aussi d'un ange. Il a comme attribut un arc, des flèches dans un carquois, une fleur, des ailes. Sa mère, la déesse de l'amour, est Vénus chez les Romains, Aphrodite chez les Grecs. Son père est Mars, dieu de la guerre chez les Romains, Arès pour les Grecs, qui a vécu une histoire d'amour avec Vénus. Pour mémoire, l'époux de la très belle Vénus est Héphaïstos, le très laid dieu boiteux du feu et des forges. Pour les Romains, Cupidon tire son nom du mot latin cupido, qui signifie désir passionné, passion amoureuse. De même en grec, Eros signifie amour. Cupidon lance des flèches pour rendre n'importe qui follement amoureux de la première personne qu'il rencontre. Le poète latin Ovide raconte que Cupidon dispose de flèches à la pointe en or et d'autres à la pointe en plomb. Les pointes en or vous transpercent le cœur et vous rendent éperdument amoureux. Les pointes en plomb chassent l'amour. Ainsi, Cupidon a lancé une flèche en or dans le cœur d'Apollon, qui est devenu instantanément amoureux de la très belle nymphe Daphné. Mais à celle-ci, il a lancé une flèche en plomb, ce qui l'a fait fuir Apollon. Pour s'en sortir, alors qu'elle était poursuivie par le dieu, elle a finalement été transformée par son père en laurier, arbre qui sera consacré à Apollon. Lorsque nous sommes amoureux, nous dessinons un cœur transpercé par une flèche. Cela signifie que la flèche à la pointe d'or de Cupidon nous a transpercés et que nous désirons la personne dont nous sommes amoureux. Le message d'amour ou d'amitié envoyé à la Saint-Valentin était à l'origine la tradition de la Valentine, apparue en Angleterre au XIV-XVe siècle. Des cartes décorées de cœurs et de Cupidon sont apparues au XVIIe siècle. Puis, ces mots doux du 14 février se sont changés au XIXe siècle en cartes imprimées de poèmes appelées Valentine. Pour moi, la plus belle histoire d'amour de la mythologie est celle de Pyrame et Thisbé, racontée par le poète latin Ovide dans les Métamorphoses. L'histoire se passe à Babylone. Pyrame est le plus bel adolescent et Thisbé la plus ravissante jeune fille de l'Orient. Ils habitent dans des maisons mitoyennes, c'est-à-dire qu'un mur est commun aux deux maisons. Ils grandissent côte à côte et apprennent à s'aimer. Ils veulent évidemment s'épouser, mais leurs parents s'y opposent. Mais amour ne se laisse pas faire. Plus sa flamme est cachée, plus elle brûle. Dans le mur mitoyen, les deux amoureux sont les seuls à avoir remarqué une fissure. Ainsi, chacun de son côté peut murmurer à l'autre son amour. Ce mur odieux qui les sépare leur permet en quelque sorte de se rejoindre. Voici leurs paroles, je cite Ovide. « Mur jaloux, pourquoi t'opposes-tu à notre amour? Que t'en coûterait-il de permettre à nos corps de s'unir tout entiers? Ou, si c'est trop demandé, de t'ouvrir assez pour que nous échangions du moins nos baisers? Cependant, nous ne sommes pas ingrats. C'est grâce à toi, nous l'avouons, que nos paroles ont pu se frayer un passage jusqu'aux oreilles de l'être aimé. » Pyrame et Thisbé échangent ainsi passionnément à travers le mur du matin au soir, seule la nuit les sépare. Un jour, ils n'en peuvent plus et décident de s'enfuir pour vivre ensemble. Ils projettent de se retrouver la nuit suivante dans un lieu très connu de la campagne, la tombe de Ninus, sous un grand mûrier blanc, près duquel coule un ruisseau clair. La journée leur semble interminable tant ils sont impatients.
Dans l'enregistrement suivant, Tom et Louis vont nous parler d'un manga en rapport avec la Saint-Valentin.
Salut à toutes et à tous! Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes la Saint-Valentin, je vais vous présenter, tadadam, un manga! Et non, pas un roman, mais bel et bien un manga. Je l'ai lu pendant les vacances, mais je n'avais que les deux premiers tomes! C'était dur de ne pas connaître la suite, mais j'ai tenu! Bon, trêve de blabatage, passons ce manga au peigne fin. Dans un premier temps, décortiquons son nom. 5 cm per seconde. Pourquoi ce nom? C'est une référence à ce que l'héroïne dit au milieu du premier chapitre. Les pétales de fleurs de cerisier tombent à 5 cm par seconde. Nous avons cherché si cette information était réelle, et elle l'est. Aki Akari, l'héroïne dit cette phrase à Takaki, son meilleur ami, lorsqu'ils ont tous les deux environ 9 ans. Au fil des années, leur amitié ne cesse de grandir et se transforme en amour, mais le destin va les séparer. Leur amour va-t-il tenir malgré la distance? Pour le savoir, rendez-vous au CDI où vous pourrez lire le manga.
Bonjour Monsieur Charbin, merci beaucoup de nous laisser vous interviewer.
Avec plaisir, merci.
Dans les enregistrements suivants,
alors, donc,
nous
on
allons
va parler,
entendre l'interview de Monsieur Charbin par Tom,
votre dernier livre que
ainsi
vous avez
qu'une
sorti,
présentation de
la
son
folie,
dernier roman
qui parle justement d'une histoire d'amour. Donc qu'est-ce qui vous a dit Donc je vais vous poser la première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre?
Alors, la peur que moi j'avais quand j'étais au collège, parce que je me souviens très bien de moi au collège, et j'étais très timide, en particulier avec les filles, et même quand j'étais amoureux, j'étais souvent amoureux au collège, je n'osais absolument pas dire mon amour, c'était très compliqué, et je sais que c'est resté un tabou, c'est resté quelque chose de très compliqué, et peut-être tant mieux, hein, c'est que c'est resté quelque chose d'assez mystérieux quand même. Et j'ai eu envie de parler de ça, et aussi de parler du problème de l'image chez l'adolescent.
Oui.
C'est que quand on est adolescent, on a toujours l'impression d'être observé, d'être en observation, et que tout le monde fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à notre manière de s'habiller. Donc j'ai eu envie d'inventer en quelque sorte, deux jeunes qui réussissent à passer là-dessus Et finalement, ben, à oser s'aimer et à oser cette folie avec des chiches et pois chiches.
Oui.
Et puis à oser cette folie de l'amour, en fait, en acceptant qu'on l'est.
Oui.
Et puis en acceptant de le dire à l'autre et de vivre quand même. Enfin, l'amour, je crois que c'est une des plus belles aventures humaines, quoi.
Oui.
Voilà.
Donc. Troisième question. Pourquoi avez-vous choisi de prendre comme personnage principal un garçon plutôt qu'une fille ?
Parce que je crois que... parce que des livres sur l'amour, qui traitent de l'amour adolescent, il y en a beaucoup, mais le point de vue, il est souvent féminin. C'est okay. Souvent une fille. En fait, on raconte à la place d'une fille.
Oui.
Et le jeu est souvent féminin. Ou alors elle, parce que c'est souvent écrit par des autrices,
oui.
Donc des femmes, et puis... Bah souvent, les lectrices, en fait, sont plus des filles. Mais moi, j'ai eu envie de contrebalancer et de parler du côté masculin, notamment parce que je suis un garçon.
Oui.
Donc, c'était aussi mon point de vue. Mais c'était un petit peu pour contrebalancer la plupart des romans qui, justement, sont pris de ce point de vue féminin.
D'accord.
Voilà.
Quatrième question à présent. Pourquoi avoir choisi des personnages étant en sixième, alors que ce sujet est peut-être pour les plus âgés, quatrième, troisième ?
Ben parce que je pense qu'en fait, ça aurait pu être un roman pour pour des enfants de 5 à 6 ans.
D'accord.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être, on peut vivre une histoire d'amour magnifique
oui.
Quand on est petit et quand on en a 92.
Oui.
Et moi, mon choix, ça n'a pas été d'être dans l'adolescence, qu'on appelle l'adolescence. Alors bon, j'ai du mal avec les préadolescents, les adolescents,
oui.
Les post-adolescents, les adolescents. Bon, bref, là, ça devient trop compliqué. Mais non, j'ai eu envie de partir avant, enfin de traiter avant justement cette adolescence qui parfois, je trouve, peut être violente.
Oui.
Violente physiquement, violente mentalement. Et j'ai eu envie vraiment de traiter du côté des sixièmes.
D'accord.
Un âge où on arrive au collège, où déjà c'est compliqué d'arriver au collège.
Oui.
De faire sa place au collège. C'est compliqué dans la classe, c'est compliqué avec les professeurs, c'est compliqué avec les copains, c'est compliqué avec les copines, c'est compliqué avec les amours. Et donc je voulais rajouter un petit peu ça et que ce soit à la fois l'obstacle.
Oui.
Et en même temps le lieu qui permette de mieux vivre. La sixième pour ce garçon. Et donc, ouais, la sixième m'intéressait, et notamment parce que des romans d'amour adolescents, donc plutôt 13, 14, 15 ans, en fait, je pense qu'il y en a énormément.
Oui, c'est vrai.
Mais le côté amour, quand on a 10 ou 11 ans, c'est plus rare. Hein. Je pense
oui.
Que c'est plus rare. Il y en a des très beaux, hein, mais je pense que c'est plus rare.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi avez-vous choisi le collège comme lieu principal ?
Parce que je le connais bien. Parce que je le connais bien, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est un lieu de société, de sociabilisation.
Oui.
C'est un lieu où on vit ensemble. Les enfants vivent ensemble, les adultes sont ensemble, les adultes rencontrent les enfants rencontrent les adultes.
Oui.
Et c'est une classe, je trouve ça je trouve ça toujours très très énigmatique, mystérieux et fascinant parce que c'est une société
oui.
Dans laquelle des enfants très différents vont se rencontrer, on les force entre guillemets à se rencontrer,
oui.
À vivre des choses très fortes, très puissantes ensemble. Et il va falloir s'entendre.
Oui.
Alors, il va falloir s'entendre. Alors certains ne s'entendront pas, se détesteront, d'autres s'aimeront beaucoup, puis certains vont s'ignorer, puis vont se retrouver, il y aura de l'indifférence. Et moi, je suis toujours dans cette fascination de me dire comment ça se fait, comment on arrive à faire fonctionner une classe, pourquoi est-ce que tout à coup elle tourne et puis plus rien ne va, et pourquoi
oui.
Des fois il y a des moments magiques où vraiment on s'épanouit, on rit, on fait cours, on apprend des choses. C'est un lieu de partage, d'échange. Très très mystérieux et
oui.
Même après toutes les années là d'enseignement, c'est toujours un lieu qui m'intéresse à étudier, tu vois, comme le labyrinthe, hein, comme un labyrinthe, tu te mets au-dessus, on est toujours dans la mythologie, hein,
oui.
Tu te mets au-dessus d'un labyrinthe, tu y mets des personnages et puis tu observes ce qu'ils vont faire. Alors, des fois, le professeur, c'est le minotaure, hein, donc il les dévore un peu, quoi. On essaie de ne pas être minotaure, mais cela dit, l'observation, en fait, dans ce dédale de mettre des obstacles, c'est toujours fascinant. Donc, le collège, ouais, c'est un lieu magique. Moi, je trouve un lieu magique. Ouais.
D'accord. C'est une réponse très complète.
Merci.
Donc, passons à la sixième question. Est-ce qu'il y aurait un aspect autobiographique dans ce livre ?
Alors, oui et non. Oui, pour le côté chichou pois chiche, un peu zinzin, mais que je ne m'autorisais pas en sixième.
D'accord.
En fait, j'ai été fou, amoureusement parlant, plus tard. Je me suis permis des choses complètement zinzin plus tard. Mais j'étais un élève, j'essayais de me faire le plus discret possible.
Oui.
Après, il y a des choses, des choses autobiographiques. Par exemple, tu sais la scène de Sous le lit ?
Oui.
Ben, je l'ai vécu.
Ah ouais ?
Je l'ai vécu. Alors, je ne me suis pas endormi. Oui. Mais par contre, j'étais sous le lit de mon amoureuse, mais c'était plus tard, hein, oui. Quand j'étais étudiant. Et en fait, sa maman est venue dans la chambre et j'ai vu les pieds de la maman. J'étais couché. Ouais, donc voilà, tu vois, il y a des moments... quand je repense à ça, je me dis, c'était vraiment zinzin, mais en même temps, c'était merveilleux, quoi. D'avoir ça en moi, ces souvenirs complètement fous, ouais, c'était assez merveilleux.
Oui.
Donc il y a eu des moments... il y a des moments autobiographiques.
Et comment vous en êtes sorti alors ?
Ah ben, en tout cas, en fait, on n'a pas bougé. Enfin, moi, je n'ai pas bougé. Et puis la maman est partie ensuite. Et puis moi, je suis sorti du lit. Enfin, de sous le lit. Et puis après, en catimini, je me suis sauvé.
Voilà, ah ouais.
J'étais étudiant, c'était un petit peu plus tard, j'étais pas au collège. Voilà, il y a eu des moments de grande folie comme ça. Quand on y est, on n'est pas très à l'aise,
oui.
Mais quand on en sort après, on dit, c'était fou.
Oui.
Ouais, donc c'était très plaisant d'être fou.
Ouais, d'accord. Question 7 à présent, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message aux collégiens avec ce livre ?
Aucun. Non, en fait, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout un donneur de leçons,
oui.
Je suis pas un moraliste. En fait, ce que j'aimerais que les jeunes y voient, c'est ce qu'ils ont envie d'y trouver.
D'accord.
C'est-à-dire que chacun y puisera quelque chose.
Oui.
Moi, ce que j'ai dedans, c'est... il y a juste un mot, c'est oser.
D'accord.
Oser. Le regard des autres, je sais comme il est... Comme il pétrifie.
Oui.
On est encore avec la mythologie, hein, avec la Gorgone. Hein.
Oui.
Mais il pétrifie. Mais je l'ai vécu. Alors, c'est trop facile quand on est adulte de dire « Mais on s'en fiche du regard des autres. Soyez
oui.
vous-même. » Non, trop facile. Mais en même temps, il faut quand même le dire aux jeunes. Et si vous avez envie d'être fou, ben soyez-le, quoi. Vous avez envie de vous habiller comme ça, mais faites-le. Tu as envie de faire cette coupe, mais ose. Tu as envie
D'accord.
de dire ça à quelqu'un, mais ose. Oser et ne pas se laisser pétrifier par le regard des autres.
Oui.
Parce qu'il y a quelque chose qui, je pense, c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous observe, mais en fait, quand on est adolescent, c'est l'inverse. Tout le monde est tellement concentré sur son nombril
oui.
et sur soi, en se disant que tout le monde nous observe, que finalement,
oui.
tout le monde s'observe soi-même.
Oui.
Et parfois, on se dit, on y va, et puis on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais en fait, non, vu que tout le monde le pense, finalement, personne ne regarde personne.
Oui.
Il faut juste accepter ça en se disant, mais je m'en fiche quoi, j'ose.
Oui.
C'est tout, j'ose. Et j'aime bien les jeunes qui osent et qui ne se laissent pas pétrifier. Mais encore une fois, c'est facile de le dire maintenant, parce que quand on y est, quand on est dedans,
oui.
la tête dans le guidon, comme on dit, eh ben, c'est super compliqué. Tu as beau avoir un adulte qui va te dire « mais ose, mais sois toi-même », c'est tellement compliqué d'être
oui.
soi-même, quoi. Parce que on se construit quand on est adolescent et on se construit avec le regard des autres. Mais
oui.
ouais, ose, quand on peut.
Oui.
Voilà, quand on peut.
Très bien. Très belle réponse.
Merci.
Passons à présent à la huitième question. Qu'est-ce que vous pensez de la page de couverture de votre roman ? Est-ce que vous auriez choisi cela ?
Alors, c'est encore un mystère. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on écrit un roman, on donne le texte à l'éditeur.
Oui.
Quand l'éditeur l'accepte, on retravaille le texte. Et en parallèle, l'éditeur cherche... un illustrateur.
Oui.
Mais en fait, il ne nous dit pas. Ça ne nous regarde pas, les
D'accord.
auteurs et les autrices. Sauf que ce sont des grands auteurs ou de grandes autrices. En fait,
mm-hmm.
ce qui se passe, c'est que moi, souvent, on me dit, tiens, ben, on a pensé à cette personne-là
oui.
pour ta page de couverture, ta couverture. Je dis, bon, d'accord. Et puis, je regarde rapidement, je regarde le lien, tout ça, ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas tellement notre mot à dire parce qu'en fait, on a signé le contrat avant. Oui. Et dans le contrat, il y a une clause notamment qui stipule que, en quelque sorte, la couverture du roman ne nous regarde pas vraiment. Alors, il y a des gens qui sont très déçus, il y a des gens qui sont très satisfaits ou très heureux. Et moi, jusqu'à maintenant, je touche du bois. Mais j'ai été vraiment très, très heureux des couvertures. Alors, la folie, je la trouve belle, je la trouve très réussie. Oui. J'aime beaucoup le personnage. J'aime son côté mutin, elle a les yeux qui pétillent comme ça. Oui. Elle a un beau visage, je trouve, de très beaux yeux. Il y a le chignon avec les crayons qui sont passés. Il y a la marguerite, je t'aime beaucoup, un peu beaucoup à la folie. Il y a le cœur avec les deux prénoms. Donc, je trouve qu'elle est bien faite. Le vert, je trouve que ça met en valeur. C'est un vert pétant.
Oui.
Donc, ouais, j'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais pour te dire très honnêtement, Tom, quand j'écris, je ne pense pas du tout à la couverture. Je fais complètement confiance à mes éditeurs, à mes éditrices. Oui. Et j'adore être surpris.
D'accord.
Et si on me demandait qu'est-ce que tu vois comme couverture, j'aurais envie de dire non, surprenez-moi.
D'accord.
Et chaque fois, je suis surpris. Là, j'ai des couvertures qui sont arrivées là récemment de livres qui vont sortir en 2021.
Oui.
Et à chaque fois, j'étais des couvertures complètement différentes et en même temps vraiment très belles, très intéressantes. Et à chaque fois, par des illustrateurs ou des illustratrices qui sont des pointures dans le métier.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une grande, grande chance. Mais c'est à chaque fois une espèce de surprise. En fait, je le prends comme un cadeau.
Oui.
Tu vois, si tu donnes un texte et tu dis « Oh là là !» Et là, tu as ton éditrice qui dit « Bon, Alex, t'es prêt ? La couverture, vas-y, va ouvrir ton mail. » Et j'ouvre et là, j'ai l'image et je dis « Waouh !» Et ouais, c'est un espèce de cadeau, tu vois, c'est t'ouvres un papier, t'as le bonbon, waouh, voilà. Et après, je mange le bonbon. Voilà, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup la couverture de Lola, la folie. Je trouve que c'est vraiment, c'est une belle réussite. Ouais.
D'accord. Mm. Que pensez-vous de la couverture de Lola Que pensez-vous de la couverture de Ma fugue dans les arbres ?
Alors, Ma fugue dans les arbres, c'est pareil, elle est très belle. En fait, c'est une illustratrice italienne. Je la trouve très réussie, alors notamment au niveau de la pagination, de la position des éléments, l'arbre, sur le côté comme ça, qui passe au-dessus de l'écriture Ma fugue dans les arbres, qui est légèrement décalée. Et puis ce petit personnage tout en haut, avec sa robe rouge, et puis les petits écureuils. Et alors, il y a une lumière.
Oui.
Il y a une lumière sur cette couverture et la lumière est très réussie parce que c'est vraiment la lumière que j'avais quand Albertine en fait se promène dans cette dans ses canopées, dans ses arbres. Donc je trouve qu'elle a vraiment un rendu de lumière là, cette illustratrice qui est très très bon, très fort.
Dernière question sur les couvertures, que pensez-vous le goût sucré de la peur ?
Alors au départ, je l'ai discuté celle-là parce que c'était ma première couverture de roman.
D'accord.
Je l'ai discuté parce que je voyais le personnage en premier plan, la bouche légèrement entrouverte. Alors elle est rondouillette, elle est rondinette, mais au départ ça m'a, elle m'a un peu dérangé. Et après, j'ai compris pourquoi elle m'avait dérangé. C'est que je ne m'attendais pas du tout à ça.
Oui.
Et maintenant, je la revois. C'était en 2016, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Wow. Maintenant, c'était mon premier roman. Et maintenant que je la revois, en fait, je la trouve vraiment très réussie.
Oui.
Très réussie, notamment parce que je trouve qu'elle n'a pas vieilli.
Ah,
ou elle a bien vieilli.
Oui.
Tu vois, des fois, tu regardes les couvertures et tu te dis... ça fait vieillou, quoi.
Oui.
Oh, ça fait vraiment vieux livre. Et là, non, je trouve qu'elle est assez réussie. Non, elle est réussie, le goût sucré de la peur.
D'accord.
Mais tu vois, je le dis maintenant, alors que quand je l'ai vu au départ, et là, j'ai discuté. J'ai dit, oui, écoute, bon, ta couverture, la couverture, je ne sais pas. Et mon éditrice m'a dit, oui, mais il y a ça, regarde bien ça, et ça. Et bien sûr, j'ai cédé en disant, ouais, ok. Je n'étais pas complètement convaincue.
Oui.
Et maintenant, finalement, je suis convaincue. Donc, je fais vraiment confiance, en fait, à mes éditrices.
D'accord. Dernière question à présent. Est-ce que vous voudriez nous dire deux mots sur le sujet de votre prochain livre ?
Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par prochain livre, parce qu'il va y avoir plusieurs livres qui vont être édités. Il y a trois romans là, qui vont sortir en 2021. Il y a déjà les couvertures, ils sont écrits, ils sont finalisés. Donc, il y en a un qui sort le 3 mars, par exemple, qui s'appelle Bande de poètes. Et Bande de poètes, c'est un roman en vers. Donc, entièrement en vers, il y a des alexandrins, des décasyllabes, des octosyllabes, il est entièrement en vers, rimé, rime plate, rime croisée. Et c'est donc, en fait, c'était l'idée, c'était de reprendre un petit peu le début de la littérature avec Homère, par exemple. Oui. Bon, je ne suis pas Homère, on est d'accord. Hein.
Oui.
Je n'ai pas raconté l'histoire d'Ulysse, mais, parce qu'il en a écrit 12 000 quand même des vers, mais j'en ai écrit 3 000. Oui, 12 000. Ouais, ouais,
ah,
L'Odyssée, c'est 12 000 vers. Mais là, moi, j'en ai écrit 3 500.
C'est déjà énorme.
Mais en fait, l'objectif, c'était de retrouver la narration par les vers et de retrouver le chant. En fait, le chant, c'est-à-dire pas de chanter, mais de retrouver le rythme de la narration. Et en travaillant les vers, en fait, ça permet vraiment de travailler le rythme, le souffle. Et je voulais en quelque sorte, alors c'est peut-être ambitieux, je ne sais pas si c'est réussi, mais j'espère. En fait, je voulais en quelque sorte permettre à tout le monde de lire des vers sans avoir l'impression que c'est de la poésie, mais finalement en lire quand même, parce qu'il y a quand même des moments poétiques avec des métaphores, avec tout ce qu'il y a dans la... Mais que ça reste une histoire, et que ce soit une histoire, et c'était ça un peu la gageur le plus difficile, c'est que ce soit une histoire en fait qui s'adresse aux 10-11 ans. Donc un roman en vers, mais pour les 10-11 ans, pas pour les adultes, pas pour les adolescents de 14-15 ans, parce que ça a été fait. Par contre, pour cet âge-là, pour les 10-11 ans, en fait, ça n'existait pas.
Oui.
Et écrire un roman en vers, quelque chose en fait qui n'existe pas dans le panorama de la littérature jeunesse, bah, c'était un défi extraordinaire qu'on m'a permis d'écrire, quoi. Voilà.
Wow.
Et puis là, après, il y aura d'autres choses. Et notamment, là, je suis en train d'écrire un roman. Alors, on ne m'a pas encore dit oui, mais on ne m'a pas encore dit non. Donc, je suis en travail, en plein travail de manuscrits, de brouillons, de réflexions, de relecture. Et ça, ça sera par contre pour les adolescents plutôt grands, plutôt 14-15 ans, une histoire fantastico-horrifique sur une île, un peu dans la lignée de l'île du docteur Moreau, de H.G. Wells, donc qui fiche un petit peu la pétoche. Et d'une bande d'adolescents qui arrivent sur une île et où il y a, entre guillemets, des monstres.
D'accord.
Voilà.
Et il sortira quand vous
Voilà. S'il sort. Ben, on ne m'a pas encore dit oui, donc Tom, je ne sais pas.
D'accord.
Il faudrait déjà qu'on me dise oui. Et puis après, après je ne sais pas, ça sera, s'il sort, ça sera 2022 ou 2023.
Oula, plus de un, voire deux ans à attendre.
Ouais, ah, mais c'est toujours comme ça de toute façon. Hein. C'est
toujours,
à partir du moment où je me mets à écrire, je sais que le livre ne sort pas avant un an. Tu vois Ouais, c'est à peu près 12 mois ouais, pour faire le livre. Donc quand je me mets à écrire, ben je sais que c'est pas avant 12 mois, mais parce qu'il y a un travail énorme pendant, 12 mois. Quoi. Voilà.
Il m'a vraiment donné envie de le lire.
Ben je croise les doigts, Tom.
Moi aussi, parce que vraiment...
J'espère qu'on me dira oui. Ben, je te tiendrai au courant.
Génial.
Pour cette île, cette histoire d'île. Je te dirai si on m'a dit oui ou si on m'a dit non. Mais c'est, en fait, l'éditeur, c'est PKJ.
Ah oui.
Bah, PKJ, c'est ceux quand même qui ont fait Divergente, qui ont fait Hunger Games. Donc tu vois, c'est un gros éditeur. Voilà, donc je suis en pourparler avec l'éditeur et puis on discute. Il m'a dit, bah, j'aimerais bien te dire oui, mais donne-moi-en un peu plus. Donc là, j'écris, je vais lui en donner un petit peu plus. Et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vous dirai ça.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Continuons à parler roman avec Monsieur Orny. Il nous présentera les romans qui, selon lui, représentent le mieux le fait d'être amoureux.
On a beaucoup écrit sur cette question du sentiment amoureux. Le philosophe Platon a écrit Le Banquet en 380 avant Jésus-Christ, dans lequel la question de l'amour est traitée du point de vue philosophique. Collégien, j'ai lu, un peu en cachette à l'époque, parce que ce livre n'était pas considéré comme adapté à mon âge, un roman d'Émile Zola, La faute de l'abbé Mouret, qui raconte la magnifique histoire d'amour entre un jeune prêtre et une jeune fille. Cette histoire se déroule dans une magnifique propriété, le Paradou, qui rappelle le jardin d'Éden. Lorsque j'ai fait mes études, en deuxième ou troisième année, j'ai suivi un cours de littérature comparée qui s'intitulait Le roman de la passion. Nous y avons étudié et comparé deux romans du XIXe siècle et deux romans du XXe siècle. Les romans du XIXe siècle étaient Volupté de Charles-Augustin de Sainte-Beuve et L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Les romans du XXe siècle étaient Aurélien de Louis Aragon et Le diable au corps de Raymond Radiguet. Dans mes études, j'ai aussi rencontré des histoires d'amour très connues, telles que Roméo et Juliette de William Shakespeare, Tristan et Iseut et d'autres romans du Moyen-Âge, notamment ceux de Chrétien de Troyes, où l'amour occupe une grande place. On peut encore citer la princesse de Clèves de Madame de Lafayette au XVIIe siècle et Manon Lescaut de l'abbé Prévost au XVIIIe siècle. Les souffrances du jeune Werther, les Leiden des Jungen Werthers, c'est son titre en allemand, écrit par Johann Wolfgang Goethe, un grand poète allemand du XVIIIe siècle, m'a beaucoup intrigué parce qu'on m'avait appris que ce livre détenait un triste record. Sa lecture avait entraîné une grande vague de suicides dans toute l'Europe, au point qu'il fut interdit. En effet, le héros Werther est tombé éperdument amoureux de Charlotte, mais celle-ci, fiancée à Albert, se marie. Werther renonce à vivre et se tire une balle dans la tête. Toute une génération de lecteurs a imité les deux héros en portant les mêmes vêtements qu'eux, comme le font aujourd'hui les fans de séries, de groupes de musique, et leurs amours contrariés ont entraîné de nombreux suicides, au point qu'on a parlé d'effet Werther. Si toutes ces œuvres parlent de passion amoureuse ardente, il s'agit toujours d'amour contrarié, freiné, voire impossible du fait de la pression familiale, sociale, religieuse. Soit la femme est déjà mariée ou promise à un autre, soit la famille est opposée au mariage. Il y en a une que je place bien au-dessus des autres, c'est une très grande œuvre qui vient de l'Orient. Et elle procure de la lecture pour un long moment, et quelle lecture ! Les récits sont nombreux et variés. Certains sont très connus, Sinbad le marin, Aladdin et la lampe merveilleuse, Ali Baba et les 40 voleurs, vous avez reconnu les contes des mille et une nuits. Ce qu'on appelle le récit cadre, c'est le récit principal qui encadre les autres histoires, est lié à une histoire d'amour. En voici un résumé. Le puissant sultan Shahriar a été trompé par son épouse qu'il adorait. Il tue sa femme infidèle et son amant et décide de se venger des femmes qu'il considère maintenant toutes comme des traîtresses. Il demande à son vizir, son premier ministre en quelque sorte, de lui trouver chaque soir une nouvelle épouse, belle et jeune, et de la faire décapiter le lendemain matin. Après un certain temps, la population critique le cruel sultan et cache ses filles. Le vizir a de plus en plus de mal à trouver des femmes pour le sultan. Or, le vizir a deux filles qu'il adore, Scheherazade et Dinarzade. Scheherazade, l'aînée, est d'une éblouissante beauté, d'une grande intelligence et d'une culture immense. Elle a lu tous les livres de la bibliothèque de son père et elle sait merveilleusement bien conter les histoires. Un jour, elle va voir son père et lui dit « Père, je veux épouser le sultan Shahriar. » « Non, ma fille, s'exclame le père horrifié. Si tu épouses le sultan, tu auras la tête coupée le lendemain. Faites-moi confiance, mon père, répond calmement Scheherazade. Il faut que je sauve les filles de mon pays. Je refuse. Père, si vous refusez, j'irai seul voir le sultan pour l'épouser. » Le vizir sait que sa fille ne changera pas d'avis et avec tristesse offre sa fille en mariage au sultan. Pendant mille et une nuits d'affilée, Scheherazade va raconter des histoires à Shahriar en s'arrêtant chaque fois à l'aube et en créant un fort suspense. Elle le force ainsi à la garder en vie une journée de plus, afin qu'elle puisse finir le récit la nuit suivante. Comme le sultan veut connaître la suite de l'histoire, il n'a pas le choix. Finalement, le sultan, gagné par le charme et l'intelligence de Scheherazade, abandonne sa résolution et décide de la garder auprès de lui pour toujours, ayant reconnu ses qualités de cœur et d'esprit, et il pardonne toutes les femmes. Cette histoire montre la puissance que peuvent avoir les contes, les récits. Elle montre aussi que la culture, la connaissance sont plus fortes que la puissance d'un roi. Et la détentrice de cette culture est une femme. Pour des textes qui ont été écrits entre le IIIe siècle et le XVIe siècle, c'est sacrément moderne.
Merci d'avoir écouté cette première émission de Schumann Radio. Nous espérons qu'elle vous a plu.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous
pour notre prochaine émission à ne pas manquer le 22 avril.
nous allons continuer à parler roman avec la sélection d'amour de Monsieur Orny. Non, putain de bordel de putain. Continuons à parler roman avec Monsieur Orny. Il nous présentera les romans qui, selon lui, représentent le mieux le fait d'être amoureux.